Il est 8h, bon réveil.
Ils vont disposer d'ici d'un espace de vie. Il y a voilà, une grande salle à manger, il y a un salon, ils peuvent se déplacer, prendre l'air, etc.
C'est un peu l'anti-confinement. Rassembler dans un même établissement des personnes âgées contaminées pour simplifier leur prise en charge. Reportage sur cette expérimentation dans le Tarn. L'Institut Pasteur de Lille et sa molécule secrète contre le Covid. Les résultats de l'étude clinique sont attendus dans 6 mois. Environnement, éducation et surtout la santé. Voilà les thèmes chers aux 18-29 ans. Sondage IFOP pour Europe 1 sur l'optimisme des jeunes pour leur avenir. Dans ce journal, Bernard Tapie, 77 ans, 2 cancers à soigner, 400 millions à rembourser et un procès en appel à partir d'aujourd'hui. Et puis, c'est l'État américain qui donne le ton d'une élection. L'Ohio, où le candidat en tête localement est toujours celui qui s'installe à la Maison-Blanche. C'est là que Joe Biden tient meeting ce soir.
Juste après ce journal, son livre « Le génie lesbien déchaîne les passions », Alice Coffin y dénonce la domination masculine. Elle est élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, militaire féministe. Alice Coffin répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À ce niveau-là, on ne peut plus parler d'un cluster. Et pourtant, tous les résidents y seront porteurs du virus. Ils l'ont attrapé ailleurs et viendront vivre et se faire soigner dans cette maison de retraite du Tarn.
L'idée, c'est d'éviter l'encombrement hospitalier, mais aussi les nouvelles contaminations, tout en permettant à ces personnes âgées de ne pas se confiner dans les quelques mètres carrés de leur chambre.
Un reportage de Benjamin Béter dans l'établissement où va commencer cette expérimentation.
On aura les gants, nos surblouses, comme ceci là, qu'on changera à chaque chambre. Par rapport à des maisons de retraite classiques, on va dire, on est obligé de se protéger davantage.
C'est une quinzaine de résidents Covid qu'Anaïs, l'aide médico-psychologique, s'apprête à accueillir. Alors le protocole est strict, c'est Guillaume Marzocchi qui a monté ce projet. Il a vu des résidents forcés de rester dans leur chambre au printemps dernier et voulait proposer une alternative.
Ils vont disposer d'ici d'un espace de vie. Il y a voilà, une grande salle à manger, il y a un salon, ils peuvent se déplacer, prendre l'air, etc. Ce qui serait beaucoup plus difficile dans un EHPAD puisqu'ils seraient confinés dans leur chambre.
Concrètement, quand un cas est détecté dans un EHPAD du département, l'hébergement dans cet établissement peut lui être proposé. Pour Abderrahim Mamoukadour, de l'ARS du Tarn qui finance l'expérimentation, c'est un bon moyen de casser les chaînes de transmission.
C'est permettre aussi de soutenir les soignants en EHPAD en retirant le plus tôt possible un résident Covid positif, puisqu'on le sait, quand vous avez des Covid en EHPAD, ça entraîne malheureusement un surcroît d'activité, un surcroît de charge de travail pour les soignants, donc in fine de l'épuisement.
L'autre intérêt, c'est de permettre un retour plus rapide des résidents hospitalisés dans leurs EHPAD et d'éviter un engorgement des lits d'hôpitaux. À Salle, Benjamin Péter, Europe.
Les métropoles de Toulouse et Montpellier passeront en zone d'alerte maximale ce soir à minuit. Elles présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes, selon les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran. Elles rejoignent Aix-Marseille, où les restrictions en vigueur sont prolongées de 15 jours, ainsi que Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne.
Le nombre de nouvelles contaminations au Covid relevé ce week-end en France a battu de nouveaux records. 27 000 annoncés samedi soir, 16 000 encore hier. On vous parlait il y a quelques jours de cet espoir de traitement contre la maladie. Une molécule étudiée par l'Institut Pasteur de Lille.
Un médicament déjà utilisé pour une autre pathologie et qui semble être efficace contre le Covid. En tout cas en laboratoire, un essai clinique est lancé avec le mécénat d'LVMH car il s'agit maintenant de vérifier sur des patients que cela fonctionne. C'est ce qu'expliquait le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille, Benoît Després, ce matin sur Europe 1.
Étant donné son profil de sécurité très bon, il va être possible, nous l'espérons, de pouvoir l'utiliser très tôt dans le cours de la maladie alors que les symptômes sont encore très légers. L'idée, c'est de le prescrire très tôt dès la positivité du test de dépistage pour complètement supprimer la réplication virale et d'empêcher que les gens soient très contagieux et qu'ils ne basculent dans la maladie grave qui est vraiment pénalisante. Nous espérons pouvoir commencer l'essai clinique dans les prochains mois. L'étude n'est pas une étude très très longue. Si malheureusement l'épidémie reste active comme elle l'est aujourd'hui, le recrutement des patients ne devrait pas poser beaucoup de soucis. Et donc, à la fin du premier trimestre de 2021, on pourrait espérer avoir des résultats à découvrir de l'essai clinique.
Benoît Després, invité de Sébastien Krebs à 6h40 ce matin sur Europe 1. Toujours à propos de Covid, on a appris la contamination du président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, testé positif 2 jours après avoir rencontré Emmanuel Macron à Paris.
8h05 sur Europe 1. Les jeunes, les adultes de moins de 30 ans au temps du coronavirus, comment voit-il l'avenir? C'est la question qu'Europe 1 a voulu leur poser avec ce sondage IFOP qui paraît aussi dans la tribune.
Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Alors quand on leur pose la question pour eux-mêmes, les 18-29 ans voient plutôt le verre à moitié plein.
Oui, tout à fait, hein, vous avez raison, hein, 62% d'entre eux se disent optimistes en pensant à l'avenir. C'est beaucoup, c'est majoritaire, c'est plus que l'ensemble des Français, mais très clairement, la jeunesse n'est pas d'un bloc. Hein. Il y a une part importante de segments de la population jeune qui se dit inquiet et pessimiste. Les femmes, les 25-29 ans, la génération de l'insertion qui justement peine à s'insérer du fait des conséquences économiques de la crise. Et on voit très bien, au-delà de cet optimisme, que l'enquête révèle les ravages de la pandémie, de la période que la France vit sur l'état d'esprit des jeunes qui se vivent complètement comme une génération sacrifiée. Hein. Trois quarts d'entre eux considèrent qu'il est désormais difficile d'avoir une vie sociale. Deux tiers se déclarent injustement accusés d'être responsables de la reprise de l'épidémie. Il y a certes un optimisme, on a le sentiment qu'on trouve la place dans la société, mais il y a une partie importante de la jeunesse qui ne s'y retrouve pas et qui vit mal la période actuelle.
Et un point qu'il faut noter, s'il fallait arbitrer entre économie et écologie, là-dessus, les priorités évoluent.
Oui, alors bien sûr, on sait que la préoccupation environnementale reste forte chez les jeunes. C'est le troisième enjeu dans cette enquête qui est le plus particulièrement ressenti comme important, derrière la santé et l'éducation, plus que l'ensemble des Français quand on compare les réponses entre les jeunes et l'ensemble des Français. Mais très clairement, le contexte de crise qui touche une partie de cette jeunesse, notamment les 25-29 ans, fait que dans une alternative transition écologique versus favoriser à tout prix la reprise économique, désormais, les jeunes citent davantage l'idée qu'il faut favoriser la reprise économique, le soutien à l'emploi, au pouvoir d'achat. Bien sûr, la question environnementale reste centrale, mais elle est un peu érodée dans ce contexte de crise et de chômage à venir.
L'éclairage sur ce sondage Europe 1, La Tribune. Merci Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Merci.
Nouvel épisode d'un feuilleton financier et judiciaire qui s'étale sur près de trois décennies. Voilà de nouveau Bernard Tapie devant la justice aujourd'hui.
Le procès en appel où il sera cet après-midi est celui pour escroquerie dont on l'accuse après les 400 millions d'euros que lui avait accordé un arbitrage en 2008. Le parquet avait fait appel après la relaxe en première instance.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Cette fois encore, Bernard Tapie sera physiquement présent malgré la maladie.
Oui, cette affaire, c'est l'une de ses raisons de vivre, affirment ses proches, et même terriblement affaibli par son double cancer de l'estomac et de l'œsophage, pour lequel il suit un traitement expérimental en Belgique qui le fatigue beaucoup. Bernard Tapie veut rassembler toutes ses forces pour être présent au maximum lors de ce procès dans lequel il joue gros. Car en appel, tout est à recommencer, et la relaxe spectaculaire du jugement de première instance ne préjuge en rien de la décision des magistrats cette fois-ci. Alors sur le fond, Bernard Tapie reste convaincu du bien fondé de son combat dans une affaire où il estime n'avoir ni truqué ni escroqué l'État en obtenant 400 millions d'euros pour son litige face au Crédit Lyonnais. Et pourtant, et c'est bien toute la complexité de ce dossier, en matière civile, Bernard Tapie a déjà été condamné à rembourser. Mais de ce côté-là aussi, il continue le bras de fer. Il n'a pas commencé à rendre l'argent. Cet après-midi, en tout cas, il sera bien présent au tribunal avec une défense toujours aussi offensive et une grosse bataille de procédure en vue pour contester la régularité de ce procès.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Un bonus de 1000 euros sans condition de ressources pour l'achat d'un véhicule d'occasion 100% électrique. C'est une annonce faite ce matin par le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari dans le journal Le Parisien.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Joe Biden qui va tenter de devenir champion dans l'Ohio et dans tous les États-Unis.
Et puis lui est un champion déjà, incontesté, la preuve encore cette nuit.
Back to James. James goes inside the flush and the foul.
LeBron James, un dunk magnifique et les Lakers de Los Angeles qui remportent la NBA.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
La campagne aux États-Unis à 3 semaines de l'élection, Donald Trump de retour sur le terrain. Premier meeting ce soir, ce sera en Floride. Joe Biden, lui, continue à tracer sa route en tête des sondages, une douzaine de points d'avance sur son rival. Il sera dans l'Ohio aujourd'hui.
C'est l'état baromètre. Sur les 14 dernières élections, cet état du Midwest a voté 14 fois pour le vainqueur. Actuellement, les deux candidats y sont au coude à coude dans les sondages. Xavier Yvon.
Il y a 4 ans, Donald Trump était couronné roi de l'Ohio, et ça se voit encore. Les panneaux Trump poussent le long des routes comme le maïs dans les plaines fertiles de cet état du Midwest. Jennifer a même recouvert sa station de lavage de voitures avec un immense drapeau à la gloire de Donald Trump.
And we're small business owners and Mr. Trump's been great for us.
On est une PME et M. Trump a été bon pour nous, explique la patronne qui redoute une augmentation des impôts si Joe Biden est élu. Mais le Trumpisme a fait des déçus aussi dans l'Ohio, comme les ouvriers de l'usine General Motors à Lordstown.
They were happy as anything.
Tous mes collègues ont voté pour lui, raconte Frank. Ils étaient si heureux quand il a gagné. Ils ont cru au conte de fées qu'il allait nous sauver. Mais l'usine a fermé malgré les promesses du président. Dans les banlieues résidentielles et les centres urbains, c'est carrément une révolte anti-Trump que sent monter Alaina Scherer, candidate démocrate au Congrès. Ici, c'est l'épicentre de la présidentielle, dit-elle. Si on gagne l'Ohio, on stoppe Trump, mais il faut que les électeurs se déplacent en nombre. Le vote par anticipation a justement commencé la semaine dernière dans l'Ohio et la participation a déjà explosé les records. Newark, Youngstown en Ohio, Xavier Yvon, Europe 1.
On reste aux États-Unis avec le sacre d'une franchise déjà légendaire, les Lakers de Los Angeles, 17e victoire en NBA, 10 ans après la dernière.
And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble.
Ils ont remporté 106 à 93 le match 6 contre le Heat de Miami, grâce évidemment à LeBron James.
LeBron James. Voilà l'ambiance dans les vestiaires après ce sac, LeBron James sacré Most Valuable Player, hein, on va dire homme du match, homme de la saison sans doute en NBA, un sacre splendide des Lakers. Et puis un peu de foot, hein, France-Portugal 0-0 en Ligue des Nations de football hier soir. Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles, reconnaît Didier Deschamps, il a raison.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.